le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, voici tout de suite les titres de ce magazine des Nations Unies. Forum des filles de la République démocratique du Congo à Kinshasa pour échanger notamment autour de l'autonomisation et l'émergence de la jeune fille congolaise. L'initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et les assises ont duré 3 jours. Dans cette édition, les détails sur cette rencontre qui a connu la participation d'une centaine de jeunes filles des provinces et de l'extérieur du pays. Mettre en place des mécanismes durables de gestion de la chasse au bénéfice des générations présentes et futures et renforcer le cadre institutionnel et juridique en lien avec l'utilisation de la faune sauvage ainsi qu'appuyer sa mise en œuvre. Ce sont là quelques-uns des objectifs phares du projet de la gestion durable de la faune sauvage en République démocratique du Congo. Dans le cadre de ce projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO, une plateforme numérique a été lancée mardi dernier à Kinshasa. Il est également dans cette édition sur ce projet ainsi que sur la plateforme mise en ligne. Environ 50 millions de dollars américains, le programme alimentaire mondial PAM, la recherche de cette enveloppe supplémentaire à son budget actuel pour couvrir les besoins des centaines de milliers de déplacés enregistrés ces dernières semaines dans la province du Nord Kivu. Ce sont là les principales nouvelles de cette première édition du magazine des Nations Unies du mois de décembre 2022. Merci de votre fidélité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Comme annoncé dans le sommaire, ouverture mardi dernier à Kinshasa du Forum des filles de la République démocratique du Congo, des assises organisées par l'UNICEF sous le thème « Échanger, connecter et autonomiser ». Une occasion pour les participantes d'échanger leurs expériences pour l'émergence de la jeune fille. Sarah Soumbela a couvert pour vous l'événement.
Une centaine de jeunes filles venues de toute la RDC et d'autres pays africains participent à ce forum avec pour objectif être entendues, comme l'indiquent d'ailleurs plusieurs affiches dans la salle. Parmi elles, Ketia Passou, ambassadrice de l'UNICEF pour la cause climatique, qui revient dans cet extrait sur son parcours en tant que jeune reporter.
Par ma voix, par mon discours, je pourrais aider un enfant quelque part à pouvoir aller à l'école. Un conseil que je voudrais vous donner aussi, servez-vous de tout ce qui est dur maintenant dans vos vies. Rentabilisez ça. Faites de ça votre marchepied, vos escaliers, pour monter encore et encore.
Céline Banza, ambassadrice de l'UNICEF, a à son tour appelé les filles à la solidarité.
Nous sommes, nous, filles de la RDC, des sœurs. Il y a un mot que je vous demande de garder pour ces 3 jours de travail, solidarité. Ensemble, nous les filles, nous sommes capables de tout.
La ministre de ZAR, représentante de celle du genre, a quant à elle rassuré aux jeunes filles que leur message sera entendu partout dans le monde.
Et je vous dis que nos oreilles sont là, très bien ouvertes, pour vous écouter. Pas seulement nous ici, l'Afrique et le monde entier.
Le représentant de l'UNICEF en RDC, Grant Leyti, a dit être aussi présent pour faire entendre sa voix afin de défendre les droits des filles et des femmes, et aussi pour les promouvoir parmi les futurs leaders dans la planète.
Faune sauvage en RDC, la FAO salue la mise en ligne d'une plateforme juridique lancée mardi 29 novembre 2022 à Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de l'environnement et développement durable, Benjamin Toirambe. Cette plateforme numérique est ouverte à tous et présente des données et des analyses sur les textes politiques, légaux et réglementaires en rapport avec la gestion durable de la faune en République démocratique du Congo. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, s'est impliqué dans le processus de mise en place de cet outil. Son représentant RDC, Aristide Ngone Obame, a lui aussi pris part à cette cérémonie. Au micro d'Honoré Missinga Kalala, un extrait de ce qu'il attend de la dite plateforme.
Des questions fondées à la sécurité sanitaire des aliments, en passant bien sûr par les règles régissant la chasse, la pêche et l'élevage. C'est le résultat de cet exercice désormais accessible à tous via cette plateforme juridique en ligne qui va vous être présentée ici. Mesdames et messieurs, si je salue très favorablement la production de cette plateforme juridique en ligne, celle-ci ne doit pas être considérée comme une fin en soi. Elle doit plutôt encourager et soutenir la poursuite de la dynamique initiée à l'occasion de cet exercice pour que les résultats de ce diagnostic soient capitalisés dans le cadre des réformes politiques et juridiques en cours et à venir. Nous espérons notamment que cet outil permettra une plus large prise de conscience et implication informée dans les concertations de toutes les parties prenantes. Ceci est en effet un prérequis à la co-construction d'une vision de la gestion et de l'utilisation du bien commun que représente la faune au service d'un avenir meilleur qui ne laisse personne de côté. À l'heure où les négociations sur le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 vont s'engager lors de la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique à Montréal dans quelques jours, je tiens ainsi à réaffirmer la volonté et la disponibilité de la FAO et de ses partenaires du SWM programme à continuer d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans le processus de réforme de la politique nationale sur la faune à venir. Les analyses ont en effet souligné l'utilité que pourrait avoir la mise à jour du cadre politique sectoriel pour clarifier la vision de la gestion durable de la faune et faciliter ainsi, en suivant la réforme de la loi faunique elle-même et sa mise en cohérence avec des lois connexes.
La mise en place de la plateforme juridique de la RDC entre dans le cadre du projet de gestion durable de la faune sauvage, en anglais Sustainable Wildlife Management, SWM, un projet initié par le secrétariat de la région Afrique-Caraïbes-Pacifique, ACP, et financé notamment par l'Union européenne. L'un des objectifs du projet est l'amélioration de la gestion des espèces sauvages résilientes à la chasse ou à la pêche. En RDC, le projet est mis en œuvre par la FAO en partenariat avec le Centre de coopération internationale de recherche économique pour le développement, CIRAD en sigle, le Centre international de recherche forestière, CIFOR, et la Société de conservation de la faune sauvage, WCS. Enfin, vous pourrez trouver le lien de la plateforme juridique de la RDC en réécoutant cette émission sur les sites de Radio Okapi. https://www.swm-programme.info/legal-ub/rd-congo. Ouvrons la page sécuritaire de cette édition. La MONUSCO a salué cette semaine la feuille de route de Luanda du 23 novembre dernier et réaffirmé son engagement et son soutien diplomatique et politique à ce processus pour une résolution pacifique de la crise dans l'est de la RDC. La mission onusienne s'est dit donc disposée à consulter toutes les parties prenantes au mini-sommet de Luanda afin d'obtenir toutes les clarifications nécessaires. La MONUSCO a exprimé ses bonnes intentions dans un communiqué de presse publié lundi 28 novembre 2022. À Kinshasa, d'été avec Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
À travers ces communiqués, la MONUSCO salue la tenue du mini-sommet de Luanda ainsi que le rôle joué par chacun des acteurs impliqués pour le retour de la paix en RDC. Elle encourage la poursuite des efforts diplomatiques concertés qui ont abouti aux décisions fermes pour une cessation des hostilités et le retrait du M23 des zones occupées. Ainsi, la MONUSCO affirme avoir été officiellement saisie par le gouvernement congolais pour l'appui à la mise en œuvre des décisions adoptées dans le cadre des processus de paix de Luanda et de Nairobi. À cet effet, la mission réitère son soutien à la mise en œuvre de toutes les dispositions relevant de son mandat. Elle est également prête à mettre en place un mécanisme de coordination avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Elle soutient aussi l'opérationnalisation rapide du mécanisme de vérification ad hoc établi dans le cadre de la feuille de route de Luanda et poursuit par ailleurs son appui au processus de Nairobi. La mission reste mobilisée pour la protection des civils, avec une approche combinant la protection physique. Cela, à travers ses composantes en uniforme et les efforts civils visant à l'engagement politique et l'amélioration de l'environnement de protection.
Volet humanitaire, le programme alimentaire mondial PAM sollicite un fonds supplémentaire d'environ 50 millions de dollars américains pour couvrir les besoins en assistance aux personnes déplacées au Nord Kivu. Il y a une semaine, son chargé de programme a exprimé ce vœu au cours d'une rencontre avec la presse à Goma. Des précisions avec Sifa Maguru.
Sur les 280 000 personnes qui ont fui leur foyer en territoire des Rutshuru à la suite des affrontements, un grand nombre d'entre eux restent coincés dans les localités et les zones occupées ou parfois inaccessibles, a déploré le chargé de programme du bureau de PAM Zone Est basé à Goma. Plusieurs autres ménages sont éparpillés dans la partie Bwito, Kanyabayonga, Lubero, Masisi et en Ouganda. Le PAM souligne avoir apporté assistance à 91 000 personnes dans différents sites autour de Kanyaruchinya, ainsi que les familles d'accueil de ces déplacés qu'il tient à remercier vivement. Cependant, l'EPAM note entre autres défis l'insuffisance des ressources. Claude Kalinga, chargé de communication.
Ce manque de ressources est dû principalement au fait que le PAM a dû utiliser des vivres qui étaient prévus pour assister la population à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Et ces vivres, nous les utilisons maintenant. C'est la raison pour laquelle nous lançons l'appel à nos donateurs pour qu'ils nous donnent des ressources supplémentaires, que nous puissions combler ce gap. C'est environ 51 millions de dollars.
Le PAM insiste pour que la paix soit vite rétablie afin qu'il continuer à apporter assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes vulnérables. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comment comprendre, d'une part, le mécanisme conjoint de vérification élargi mis en place au sein de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CRGL, depuis 2012, et d'autre part, le mécanisme ad hoc issu de la feuille de route Luanda dans le cadre de bons offices du président angolais entre la RDC et le Rwanda? La chef de la section de politique régionale et provinciale au sein de la division politique de la MONUSCO, Altim Traoré, a apporté un éclairage en répondant aux questions d'Honoré Missinakalala.
Altine Traoré, bonjour.
Bonjour.
Madame, le mécanisme conjoint de vérification élargie, connu sous le sigle MCVE, fait des enquêtes sur les incidents sécuritaires et fait rapport aux 11 pays membres que compose la CRGL. Cependant, on parle désormais de mécanisme de vérification ad hoc. Pourquoi un nouveau mécanisme?
C'est vrai que le fait d'entendre qu'il y a deux mécanismes a entretenu une sorte de confusion. Le mécanisme conjoint de vérification élargie est un organe de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est un organe qui comprend donc les 12 membres de la CIRGL et qui est composé d'experts militaires de ces 12 États membres et également d'officiers de liaison de la SADC, de l'Union africaine et de la MONUSCO. Donc, et effectivement, leur rôle, comme vous l'avez déjà dit précédemment, c'est de mener des enquêtes sur les incidences sécuritaires qui impliquent les États membres de la région. En ce qui concerne le mécanisme ad hoc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'Union africaine a désigné le président Lourenço à sa qualité de président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour mener un processus de réconciliation, de discussion entre la RDC d'une part et le Rwanda de l'autre part à la suite des incidents que vous connaissez sur lesquels je ne reviendrai pas. Cela étant fait, donc, le président Lourenço a commencé son travail de bons offices avec les deux présidents et s'est tenu d'abord à Luanda dans un premier temps une réunion tripartite le 6 juillet, avec le président du Rwanda d'une part et le président de la RDC d'autre part. À cette occasion, ils ont adopté une feuille de route qu'on a appelée la feuille de route de Luanda. Et on va dire les observateurs sont d'accord pour dire que si mise en œuvre, elle permettrait de décrisper considérablement la situation. À cette occasion, ils avaient également décidé de réactiver ce qu'on appelle les commissions mixtes permanentes et la commission mixte permanente RDC-Rwanda. Celle-là s'est réunie quelques jours après, le 21 juillet, RDC-Rwanda, représentée par les deux ministres des Affaires étrangères et leurs délégations respectives. Alors, c'est à cette occasion-là que ce fameux mécanisme ad hoc est apparu. Ils ont convenu d'un certain nombre de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas, notamment les FDLR-FOCA qui devraient être combattus d'un autre côté, le M23 qui devait quitter ses positions actuelles, et la mise en place d'un mécanisme, qu'on a appelé donc un mécanisme ad hoc, de vérification des allégations communes, celles du Rwanda d'une part et d'autre part celles de la RDC. Ce mécanisme, il entre donc dans le cadre des bons offices du président Lourenço. Il est composé d'un général angolais et d'une équipe d'observateurs angolais. Et ce qui est important, c'est qu'il y a également deux officiers de liaison, un officier de liaison congolais et un autre rwandais. L'officier de liaison congolais a d'ailleurs été également désigné, de même que le général qui va conduire ce mécanisme ad hoc. Alors c'est dire qu'il y a effectivement un mécanisme conjoint de vérification élargie, basé à Goma, qui est un organe de la CIRGL, mais dans ce cas précis, pour vérifier les allégations de part et d'autre de ces deux pays, il a été préféré d'avoir un mécanisme qui rentre dans le cadre des bons offices du président Lourenço, totalement piloté par l'Angola et qui va vérifier les allégations de part et d'autre. Donc, ce n'est ni plus ni moins que cela.
Donc, on dirait que le mécanisme ad hoc concerne exclusivement les différents RDC-Rwanda.
Absolument.
Alors, il y a également un centre de fusion des services de renseignement à Goma. Quel est son rôle et en quoi diffère-t-il du mécanisme conjoint?
La grande différence, c'est que le centre de fusion comprend des officiers du renseignement. Il est composé donc de deux officiers du renseignement par pays de la CIRGL, qui sont d'ailleurs passés à 12 maintenant avec le Soudan du Sud qui a rejoint. Donc, ce qui fait qu'il y a les 24 représentants donc de leur pays. Et il y a un comité de coordination régionale qui est lui-même également tournant. Donc, le centre de fusion est avant tout un centre qui permet de fusionner les renseignements au niveau des pays de la région des Grands Lacs. Et tout cela est remis, il y a également au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, il y a également un comité de chefs d'état-major qui est présidé par un chef d'état-major. Donc ils leur font rapport à ce président, qui eux-mêmes font rapport maintenant aux différents ministres de la Défense de la conférence internationale sur la région des
Donc
Grands Lacs.
Chaque pays membre de la CIRGL, ils sont maintenant au nombre de 12, a deux représentants au niveau de ce centre de fusion.
Absolument.
Alors, dernière question, madame, quelle collaboration entre le mécanisme ad hoc et la nouvelle force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont une partie est déjà sur le sol congolais?
Comme vous le savez, il y a actuellement deux processus en cours. Donc, le premier dont on a parlé pour l'instant, ce qu'on appelle la feuille de route de Luanda, le processus de Luanda dirigé par
le président angolais.
Absolument. Il y a un second processus qui est donc le processus de Nairobi, qui a deux approches, comme vous le savez, une approche militaire et une approche politique. Et dans ce cadre-là, vous remarquerez que dans les conclusions de la réunion de la commission mixte, notamment, ils avaient appelé à travailler en coordination avec le processus de Nairobi et avaient d'ailleurs appelé au déploiement de la force régionale. Donc, les deux processus sont totalement complémentaires. Il y a effectivement, d'une part, un travail qui se fait de façon trilatérale, si je puis dire, entre les deux chefs d'État. Et de l'autre côté, il y a ce processus de Nairobi qui s'attaque aux groupes armés qui sévissent à l'est du pays en leur proposant une alternative politique ou une alternative militaire. Donc, il va de soi que, pour que tout cela puisse être mis en musique, si vous me permettez l'expression, il y a un travail de coordination qui va de soi et qui est déjà mentionné dans et la feuille de route de Luanda et dans les conclusions de la commission mixte.
Altine Traoré, merci.
Nous nous faisons plus bref. 200 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que le Fonds monétaire international FMI va encore octroyer à la RDC dans le cadre d'un accord conclu avec le gouvernement congolais à la suite de la troisième revue du programme de réforme économique appuyé au titre de la facilité élargie de crédit. Mais cet accord doit être soumis à l'appréciation de la direction du FMI et à l'examen de son conseil d'administration dont la réunion est prévue en décembre 2022. Économie encore, un mot sur la semaine d'industrialisation de l'Union africaine. Le forum s'est tenu à Niamey au Niger et la troisième journée a été marquée par la réunion de haut niveau sur l'industrialisation inclusive et durable comme moteur de la résilience, de la création d'emplois et de la stabilité du Sahel et d'autres pays africains victimes des conflits armés récurrents dans la République démocratique du Congo. La RDC a été représentée à ce forum par son ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Plusieurs partenaires techniques et financiers ainsi que le gouverneur de Haut-Katanga et du Haut-Lomami dont les provinces regorgent certains minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries électriques ont aussi pris part au panel. Enfin, en marge de la campagne annuelle de 16 jours d'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, l'ONU a appelé à la mobilisation de tous pour mettre fin à ce fléau. Cet appel est contenu dans une déclaration conjointe d'une dizaine d'agences des Nations Unies, dont ONU Femmes et le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme. Selon les dernières estimations signées à cette déclaration, plus de 5 femmes ou filles sont tuées chaque heure par un membre de leur propre famille. En plus, la même déclaration note que le mouvement antiféministe sont en hausse, que les attaques contre les femmes défenseurs de droits humains et les activistes sont en hausse et que le statut juridique de droit des femmes est de plus en plus menacé dans de nombreux pays.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce magazine des Nations Unies de ce dimanche est le chef du sous-bureau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Kisangani, le docteur Kolingbia Viko Willibard, qui avait conduit il y a quelques jours une délégation de son service dans la province du Bas-Suélé pour se faire une idée sur la première phase de la campagne de vaccination dénommée IPVS, intensification périodique des vaccinations systématiques des enfants. Quelle appréciation le médecin de l'OMS s'est-il fait de cette campagne? Le docteur Kolingbia Viko avait répondu aux questions de Jacques Omokonkole.
Docteur Viko, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'effectuer une mission dans le Bas-Ouélé. En quoi a-t-elle consisté?
La province du Bas-Ouélé est l'une des provinces de la RDC qui compte le plus d'enfants non ou insuffisamment vaccinés et de ce fait éligibles à l'approche d'intensification périodique de vaccination systématique, IPVS en sigle, pour récupérer en trois phases tous ces enfants. Le contexte de Bas-Ouélé est un peu particulier car le vaccin pour ces IPVS sont arrivés juste au moment où la chambre froide est tombée en panne et la province se préparait en même temps à lancer le deuxième passage de vaccination contre la COVID-19 dans toutes ses 11 zones de santé. Voilà un peu de façon ramassée les conditions dans lesquelles la première phase des IPVS devrait être organisée. Il était donc plus que normal de venir évaluer, voire documenter comment la province a pu réussir à lancer l'IPVS dans ces conditions.
Docteur Viko, la moyenne des couvertures par antigène tourne autour de 31%. Êtes-vous satisfait ou non?
En tenant compte du contexte dans lequel cette IPVS est organisée, mon appréciation ne peut être que bonne. Car en lieu et place de laisser les vaccins se détériorer parce que la chambre froide est en panne, le management provincial a mis en profit la campagne de vaccination contre la COVID pour mettre à la disposition des zones de santé des vaccins de l'IPVS. La moyenne provinciale de couverture en antigène phare autour de 31%. Oui, mais c'est plus que ce qu'on s'attendait. Hein? Il faut toujours vous référer au contexte d'organisation de cette première phase. Pour votre information, ces données sont encore partielles car la province organise à ce moment la campagne de vaccination contre la polio et les équipes de centres de santé récupèrent en même temps les enfants en conflit avec le calendrier vaccinal. Donc, ces couvertures seront revues à la hausse.
Certains enfants n'ont pas été atteints à la première phase. Quel est l'essor qui leur est réservé?
L'IPVS s'organise en trois passages. Comme nous venons de terminer la première passage, il reste deux autres qui vont suivre dans un intervalle d'un mois l'une de l'autre. Mais n'oubliez pas qu'en dehors de vagues d'intensification de vaccination, il y a aussi la vaccination des routines qui offre également l'opportunité aux parents de faire vacciner leurs enfants en conflit avec le calendrier vaccinal.
Docteur Viko, à propos justement de ces deux dernières phases, vous avez plaidé auprès du gouverneur intérimaire pour son implication ou son accompagnement. Quel genre d'appui attendez-vous de lui concrètement?
Bon, la stratégie utilisée pour atteindre les enfants pendant les IPVS est différente de celle utilisée pour la campagne de polio, par exemple, qui utilise la stratégie porte-à-porte pour atteindre les enfants cibles. Cependant, les IPVS utilisent les stratégies fixe avancée et mobile. C'est-à-dire si en stratégie porte-à-porte, les équipes de vaccination vont vers les ménages pour vacciner les enfants cibles, en IPVS, ce sont plutôt les parents qui amènent leurs enfants vers les sites de vaccination érigés à cet effet. Comme la cible est de 0 à 23 mois, un parent peut facilement avoir plus de deux enfants à faire vacciner et parcourir pour cela une certaine distance pour accéder à un site. Vous comprenez avec moi qu'il faut une forte mobilisation pour que ces parents se décident de coopérer. Voilà pourquoi l'implication de l'autorité au plus haut niveau de la province est requise. Notre civilité auprès de l'autorité provinciale visait trois objectifs. Primo, conscientiser l'autorité sur l'existence dans sa province de beaucoup d'enfants en conflit avec le calendrier vaccinal dont on doit récupérer à tout prix pour prévenir les épidémies éventuelles. Segundo, lui demander de procéder au lancement solennel de ces deux phases d'IPVS à l'instar des campagnes de vaccination contre la polio, la rougeole et que sais-je encore, et cela à tous les niveaux. Au niveau provincial, que la campagne soit lancée par lui-même, au niveau des zones de santé, voire dans toutes les aires de santé, par les autorités ou politiques administratives se trouvant au chef-lieu de ces entités. Enfin, tertio, mobiliser les ressources additives pour augmenter le nombre de sites par aire de santé, afin de rendre plus accessibles les services à la communauté, réduisant ainsi la distance à parcourir par les parents pour atteindre les sites de vaccination.
Certaines difficultés ont été enregistrées lors de la première phase. À que peut faire l'OMS pour les surmonter afin d'atteindre les résultats escomptés pendant les deux dernières phases?
Bon, nous avons pris bonne note de toutes les difficultés enregistrées au cours de cette première expérience d'IPVS dans le Bas-Uélé. Je ne peux pas les détailler ici devant la presse. Ce que nous allons faire, J'ai dit nous, c'est parce qu'il y a deux parties qui gèrent tout ça. Il y a la partie gouvernementale d'abord et les partenaires. Pour que les deux dernières phases se déroulent en beauté, mais dans notre rapport se trouvent les recommandations pertinentes formulées, sachant que les partenaires viennent toujours en appui à la partie gouvernementale.
Docteur Vico, merci.
Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, le 22e anniversaire s'est célébré à Bunia en Ituri. Cette résolution porte sur les femmes, la paix et la sécurité. Le vendredi 18 novembre dernier, une quarantaine de femmes et filles du chef-lieu de la province de l'Ituri ayant œuvré dans différents secteurs sociaux ont été primées par les autorités de la province et la MONUSCO. Ces femmes et ces filles se sont distinguées dans les secteurs du dialogue communautaire, de l'encadrement des enfants ou sensibilisation des groupes armés pour le retour de la paix. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Loki.
Parmi ces femmes figure Georgine Lové, la coordinatrice de l'ONG FADEM, Femmes en action pour le développement multisectoriel. La trentaine révolue, elle a reçu un prix spécial pour avoir joué un rôle dans la libération au mois d'avril 2022 des membres de la Task Force pour la paix envoyés par le chef de l'État. Ils avaient été pris en otage par la milice Codeco avant que ces derniers ne signent l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités dans les territoires de Djougou. Georgine Lové.
Oui, j'ai pris beaucoup de risques, mais j'étais déterminée. Tout ce que nous avons fait, la finalité, on les a accompagnés des accords qui étaient signés ici à Bunia. Moi, en tant que femme, je suis fière de continuer dans cette thématique-là.
Pour la coordination provinciale de la résolution 1325, c'est une manière symbolique de témoigner de la gratitude à l'endroit de ces femmes et filles qui militent pour le retour d'une paix durable dans la région. Jean-Marc Mazio, le secrétaire permanent de cette organisation en Ituri.
En fait, c'est ça la résolution 1325. Donc, on veut que la femme participe, on veut que la femme soit au centre de tout. Dans la recherche de paix, la femme participe aux instances de prise de décision.
À cette occasion, une feuille de route a été élaborée par les participants dans le cadre des actions futures à mener. C'est dans le but de rendre effective cette résolution dans la province de l'Ituri. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Que fait le programme alimentaire mondial au profit des déplacés fuyant la guerre du M23 depuis mars dernier et se trouvant dans le territoire de Niragongo? La question a été posée au chargé de communication de cette agence onusienne en RDC, Claude Kalinga. C'était au cours de l'émission Dialogue entre Congolais animée par Kéline Kouté. Suivez la réponse de Claude Kalinga.
Depuis début novembre jusqu'aujourd'hui, le PAM est en train d'apporter une assistance d'urgence à ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui sur le site des déplacés de Kanyaruchina et de Munigi. Donc, à ces jours, nous avons pu apporter une assistance alimentaire d'urgence à plus de 91 000 personnes. Donc, le nombre de personnes que nous assistons est en train d'accroître au fil de jour et le PAM est en train de s'activer également d'apporter une assistance à toutes ces personnes qui sont en train d'arriver.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Des rendez-vous à noter dans vos carnets pour la semaine qui commence. 5 janvier, deux événements, journée mondiale des sols et journée de l'aviation civile. Le 7 décembre, journée internationale contre la corruption. Du 7 au 8 décembre, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, organise le village du droit des femmes. Ce sera dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa de 9 à 16 heures. Le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. C'est à vous qui avez suivi cette émission à retrouver sur le site de Radio Kapi, www.radiokapi.net, Radio Kapi en un seul mot. Merci de nouveau pour votre attention. Merci également à Billy Landry-Bétou qui en a assuré la coordination technique. Moi, Baben Pongo Massimango, je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de rester branchés sur la chaîne de la paix. Quant à l'équipe du magazine des Nations Unies, elle vous fait un nouveau rendez-vous dimanche prochain. Portez-vous bien.